Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Quand un bateau prend l'eau, un bon capitaine fait monter tout l'équipage sur le pont pour écoper. Écoper et espérer ainsi atteindre la terre ferme. Et dans écoper, vous l'avez entendu, il y a COP, comme conférence des parties, cette instance internationale créée à la suite du sommet de Rio en 92 pour tenter d'endiguer cette menace de grand naufrage qu'est le changement climatique. L'idée, faire appliquer par 198 États la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qu'ils ont eux-mêmes ratifiée. C'est en 95 que se tient à Berlin la première COP. Depuis, 26 sont passées, une par an jusqu'à la dernière organisée en 2022 à Sharm el-Sheikh, la COP 27. De ces rendez-vous, on retient en particulier la COP 3 qui accoucha des protocoles de Kyoto et la COP 21 pour les accords de Paris. On retient aussi l'échec de la COP 15 à Copenhague qui visait à renégocier un accord sur le climat. En parallèle de ces COP climat et face à l'effondrement de la biodiversité, est créée dès 1994 la COP pour la biodiversité organisée, elle, tous les deux ans. S'il ne faut en citer qu'une, on retiendra peut-être la COP 10 de Nagoya, où les gouvernements se sont engagés à atteindre les 20 objectifs d'Aichi. J'espère que je prononce bien, sinon nos invités me reprendront. Donc les 20 objectifs d'Aichi, parmi lesquels réduire de moitié la perte d'habitat naturel ou mettre en œuvre des plans de consommation et de production durable. En 2020, aucun de ces objectifs n'avait été atteint. Le constat de l'effondrement de la biodiversité diversité est sans appel. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, 75% de la surface terrestre est altérée de manière significative et 85% des zones humides ont disparu. Le problème quand on est COP, c'est qu'on ne répare pas la fuite. Nos deux invités sont toutes les deux en doctorat à l'Université de Montpellier et elles ont été sélectionnées pour participer à la dernière COP pour la biodiversité. La COP 15, donc, organisée à Montréal du 7 au 19 décembre dernier sous présidence chinoise et elles nous en parlent aujourd'hui. Anaëlle Durfort et Marie-Morgane Rouillet, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour.
Bonjour.
Elle n'est l'objet d'aucune COP, pourtant il n'en existe qu'une et elle est sur Divergence FM. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. Pas de reportage aujourd'hui, mais vous retrouverez notre séquence reportage la semaine prochaine. Enfin, l'invitée des dernières minutes est Agnès Pesentier, responsable à la culture scientifique. Elle nous présente la nouvelle saison du Bar des sciences et ça commence le 26 janvier avec un sujet cauchemardesque, les troubles du sommeil. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors pour commencer, on va vous présenter un petit peu, comprendre un petit peu mieux sur quoi vous travaillez. Je l'ai dit, vous êtes toutes les deux doctorantes. Alors Anaëlle Durfort, on vous avait reçu il y a quelques temps pour nous parler du blue carbone. Vous êtes doctorante à Marbec, le laboratoire de biologie sous-marine de l'Université de Montpellier. En quelques mots, vous pouvez nous rappeler sur quoi vous travaillez?
Ouais, donc effectivement, je suis en écologie marine et mon sujet de thèse se concentre sur l'océan austral, donc l'océan autour de l'Antarctique. Et je vais regarder comment le krill et les baleines participent à la séquestration du carbone et comment les pêcheries de krill peuvent impacter ce puits de carbone.
Merci. Alors Marie-Morgane Rouillet, c'est une première pour vous. Par contre, vous êtes doctorante au CEF. Alors sur quoi vous travaillez?
Alors moi, je travaille aussi en écologie marine. Je travaille sur la conservation des oiseaux marins migrateurs dans l'océan Atlantique. Savoir où est-ce qu'ils sont menacés et comment est-ce qu'on peut mieux les protéger.
Merci beaucoup.
Alors, vous avez toutes les deux été sélectionnées pour participer à la COP 15 sur la biodiversité. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, cette sélection? Est-ce que vous avez candidaté pour aller là-bas?
Ouais, alors pour moi, c'était un peu une première parce que je connaissais très peu DYBN. Je faisais partie d'une association qui faisait déjà partie de ce réseau mondial de la jeunesse pour la biodiversité. Et puis, j'ai vu passer l'annonce de candidature. Et en fait, c'était un processus sur motivation, d'écrire son parcours et ses motivations pour aller à la COP. Et puis j'ai eu le plaisir d'être sélectionnée quelques semaines plus tard.
Et vous, Marie-Morgane?
Alors du coup, moi, c'était aussi de la même manière. On aurait donc toutes les deux répondu à un appel à candidature qui était organisé par ce réseau mondial des jeunes pour la biodiversité. Mais moi, je fais partie du réseau depuis 2 ans. Et donc, je faisais partie du chapitre européen. Et donc, j'ai eu l'information par l'intérieur du réseau.
Et ce réseau, le GYBN, comme vous avez dit, Anaëlle, le Global Youth Biodiversity Network, à quoi est-ce qu'il sert? Vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être?
Alors, DYBN, donc on l'appelle souvent Gibbon pour aller pour le raccourcir, mais en français, ce serait le Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité. En fait, c'est le représentant officiel de la jeunesse au sein de la Convention sur la diversité biologique, donc cette convention de l'ONU dont on parle sur la biodiversité. Et c'est un groupe qui permet de s'exprimer au sein des négociations, d'avoir la voix de la jeunesse présente. Donc comme ils ont un rôle à l'échelle internationale, ils ont aussi créé des chapitres à l'échelle nationale, donc ils sont présents dans plus de 50 pays dans le monde, même plus parce qu'on a des chapitres régionaux qui comportent plusieurs pays. Et donc en tout, on estime qu'on a à peu près 1 million de jeunes qui sont sous l'échelle de Gibbon à travers la planète.
Alors on l'a dit en introduction, les COP, on commence à en prendre l'habitude, les médias s'en sont le relais à chaque fois. Je ne suis pas certaine pour autant que le grand public sache exactement à quoi ça ressemble une COP. Alors on va profiter que vous soyez là pour en savoir plus. Ça rassemble combien de personnes en général et qu'est-ce qui s'y passe ?
Alors il y a plein de choses Anaëlle qui se passent dans une COP. Ouais. ça ressemble à environ, cette COP-là, elle rassemble à environ 17 000 personnes, c'est variable. Donc il y a deux grandes choses qui se passent durant ces COP. Il y a évidemment les négociations qui sont le cœur de la COP. Donc ça va être les négociateurs de chaque pays. Donc chaque pays envoie une délégation de négociateurs qui est minimum 2 personnes, mais il y a des pays qui envoient beaucoup plus que ça. La délégation française, c'était environ 30 personnes. Donc c'est des personnes qui vont être dans les salles de négociation, qui vont travailler le texte, qui vont avoir des points précis, et puis qui vont négocier tous ces textes-là. Les négociations, il y a différents types de négociations qu'il peut y avoir. Il y a les plénières, donc ça c'est les salles où il y a tout le monde, les observateurs, les parties, donc les délégations de chaque pays qui négocient, et puis la présidence, etc. Donc c'est des salles où on négocie pas vraiment, mais c'est plutôt les annonces, voilà, tout ce qui est procédural. Après, il y a les groupes de contact. Donc là, c'est vraiment les salles où on négocie le texte. Donc pour démystifier un peu ce qui se passe dans une salle de négociation, c'est pas très compliqué en fait, c'est juste les personnes qui sont autour de la table, donc les représentants de chaque pays qui sont là. Et puis il y a la chaire, donc c'est une sorte de facilitateur de séance qui est là, et puis il y a le texte derrière, donc c'est juste sur un Word en mode suggestion. Et puis comment on négocie, c'est qu'en fait il y a le texte et puis les points contentieux, les points où tout le monde n'est pas encore d'accord, qui sont entre crochets. Et du coup, la chaire va aller à travers le texte et puis dire, ok, alors ces crochets-là, est-ce qu'on peut les enlever ? Est-ce qu'on garde le texte ? Est-ce qu'on enlève les crochets ? Ou alors, est-ce qu'on le supprime ? Est-ce que vous voulez faire une addition, le modifier ? Et puis, les différents représentants de chaque pays prennent la parole autour de rôle et puis c'est comme ça qu'on négocie. Autour de ça, il y a les observateurs qui peuvent être là. Donc, on a parlé de la jeunesse, on a un groupe majeur, donc on est un observateur qui a une place dans tous les cas. C'est aussi le cas des communautés locales et des peuples indigènes qui sont aussi des observateurs qui sont tout le temps là. Les femmes sont aussi un groupe majeur, donc aussi observateurs. Et puis, il y a d'autres groupes observateurs qui sont notamment les ONG, les gens qui ont un badge business, donc qui viennent du monde de l'entreprise de manière générale, qui peuvent être là et puis prendre la parole quand on les autorise. Voilà. Et puis, compléter.
Il faut compléter juste après. Donc, il y a toute la partie négociation. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent à côté. Il y a beaucoup de personnes qui viennent présenter. En fait, on a des événements qui ont lieu sur les moments du déjeuner, du dîner. En fait, c'est des séminaires pour faire avancer les choses. Tout le monde essaie de montrer un peu ses outils sur comment est-ce qu'on va faire, on va pouvoir mettre en place ce cadre. Donc, chacun essaie de présenter un peu ses outils, les scientifiques, les ONG, les industries aussi qui participent. Donc, on a vraiment un peu tous ces acteurs qui se regroupent dans un endroit. Donc, il y en a qui participent aux négociations, il y en a qui viennent juste pour parler avec les autres, rassembler, en fait, parce que c'est vraiment une communauté qui travaille sur la biodiversité, qui se rassemble, en fait, à ce moment des COP.
Alors, on imagine qu'en dehors de cette période, enfin, ce temps officiel, il y a une sorte de off. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe dans la ville et comment vous avez vécu ces jours-là, Anaëlle Durfort ?
Alors, au-delà de... Donc là, la COP, elle se passait au Palais des Congrès de Montréal. Donc là, il fallait avoir un badge, donc être accrédité pour pouvoir rentrer dans le Palais des Congrès, même pour assister aux side events dans le Palais des Congrès. Mais c'est vrai que dans la ville, en fait, Montréal s'est vraiment emparé de cet événement pour proposer plein d'événements au public. Donc, il était ouvert à tous. Donc, il y avait des conférences, des débats, des débriefs, qui s'appellent des débriefages au Québec. Donc, il y avait des petits débriefages tous les soirs pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé dans la COP. Il y a aussi eu une marche qui a été organisée le week-end du milieu entre les 2 semaines de la COP. Donc voilà, une grande marche qui était assez festive, qui ressemble pas trop aux marches qu'on a en France, qui était beaucoup plus artistique. Voilà, il y avait eu beaucoup d'art qui était...
C'est festif comme événement ou pas ?
Ça, oui, ça l'était. Ouais. À l'intérieur du Palais des Congrès, beaucoup moins, c'est beaucoup plus sérieux. Et voilà. Mais à l'extérieur, ça l'a été, moi, j'ai trouvé.
aussi parce que du coup cette marche qui a quand même rassemblé 3000 personnes, donc c'était pas mal, c'était co-organisé donc par la société civile du Québec qui était très active, qui a organisé beaucoup d'événements à l'extérieur aussi pour communiquer sur ce qui se passait dans la ville. Et puis donc Gibbon aussi, donc on a toute une équipe qui était de travailler sur la mobilisation qui a été un partenaire de cette marche, et puis on a eu d'autres événements. Et c'était aussi pour la journée de la paix et des droits humains, donc ça tombait sur ce jour-là pour aussi montrer l'importance de faire le lien entre biodiversité et paix et droits humains.
Et est-ce que ça a été l'occasion pour vous du coup de faire du réseau à ce moment-là?
Marie-Morgane, donc du coup, qui a
Marie-Morgane, pardon. J'anticipais la question d'après, j'ai perdu le fil.
Alors je pense qu'à différentes échelles. Donc nous, je pense, enfin pour moi, c'était très important. Il y a des gens de Gibbon que ça fait 2 ans que je travaille avec eux, je les avais jamais rencontrés. Donc déjà rien que de pouvoir rencontrer cette communauté de jeunes qui fait des choses formidables sur le terrain, qui travaille dans des pays sur le terrain à faire des actions, à mobiliser la jeunesse, c'est incroyable. Donc de rencontrer cette communauté, pour moi, c'est du réseau au sein de la jeunesse qui permet de montrer qu'il y a des choses positives qui se font. Après, on a du réseau qui s'est fait. Alors nous, on voudrait bien avoir des choses qui se passent un peu en France. Alors on a essayé de créer des contacts avec les négociateurs français, avec la délégation française, donc plus ou moins réussi. Et puis, il y a du réseau qui se fait aussi avec les gens. Par exemple, nous, on y va aussi. On est des citoyens, on est des jeunes, on est des scientifiques, on a un peu tout. Donc, il y a aussi des choses qu'on découvre, des gens avec qui on peut interagir sur d'autres sujets qui vont nous ouvrir un peu l'esprit. On a rencontré les gens, enfin moi j'ai rencontré des gens de l'IPBES, qui est le secrétariat sur la biodiversité, qui fait des rapports sur l'état de la biodiversité régulièrement. Donc c'est des opportunités assez incroyables qu'on n'a pas tous les jours aussi.
Alors justement, vous aviez des rôles. Le Gibbon donne des rôles à chacun pour optimiser justement son action. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient vos rôles? Alors Annaëlle Durfort, pour commencer.
Alors moi, j'étais dans l'équipe policy, donc politique, donc l'équipe qui a vraiment suivi les négociations. Donc, un des travaux principaux qu'on avait à faire au sein de la COP, c'était de suivre les négociations et de faire du tracking. Donc, c'est-à-dire qu'en salle de négociation, on essayait vraiment de retranscrire tout ce qui se passait. Donc, la position de chaque pays, quel texte était négocié, et puis, lesquels coincés, sur quel point, pour comprendre un peu quels étaient les enjeux et quelles sont les positions de chaque pays. Et ça sert pourquoi? Parce qu'ensuite, il faut, si on veut faire du lobbying, donc nous, on a tout un tas de priorités qui ont été définies pour la jeunesse. Donc c'est des consultations qui ont été faites pour un peu faire émerger quelles étaient les priorités de la jeunesse en termes de protection de la biodiversité, qu'est-ce qu'on voulait vraiment voir apparaître dans le cadre. Ensuite, pour pousser pour ces priorités, nous, il va falloir qu'on fasse du lobbying. Donc ça, c'est le deuxième grand volet de la team policy. Et pour aller faire du lobbying, eh bien, il va falloir qu'on aille parler à des gens pour essayer de les convaincre que nos positions sont intéressantes et qu'il faudrait les soutenir. Pourquoi on est obligé de faire ça? Parce que nous, en tant qu'observateurs, on ne peut pas directement négocier. Donc, c'est-à-dire que nous, si on veut faire une addition de texte dans le cadre, il va, par exemple, ou un autre texte, il va falloir que des gens nous donnent la parole et puis qu'on fasse cette proposition-là et qu'elle soit soutenue par au moins un parti, donc au moins un pays. Si on n'est pas soutenu, notre proposition, elle est nulle, elle ne rentre pas dedans d'office. Donc, ça nous oblige d'avoir tout ce travail de lobbying en amont. Et du coup, c'est important de comprendre la position de chaque pays pour savoir à qui on va s'adresser pour pousser pour telle ou telle proposition que nous, on veut faire passer.
Alors, on va y venir sur ces propositions, mais avant, Marie-Morgane Rouillet, donc, quel était votre rôle, vous?
Alors, moi, j'étais dans l'équipe de coordination. Alors, juste pour donner un peu une idée de toutes les équipes qu'il y avait, donc, on avait l'équipe politique qu'Annaëlle vient de décrire, on avait l'équipe coordination, on avait l'équipe mobilisation, action, et on avait l'équipe artiste aussi, qui nous a fait des belles choses. Et donc, du coup, moi, je fais partie de l'équipe de la coordination de la délégation francophone parce que cette année, on avait réussi à avoir un financement spécifique pour les jeunes francophones qui avaient été sous-représentés jusqu'à présent. Et donc, on a organisé les liens et les partenariats aussi qu'on peut créer entre tous les jeunes de la francophonie. Et j'ai été aussi donc dans l'équipe politique pour faire le lien entre la francophonie et l'équipe politique.
Alors, on a beaucoup lu ou entendu que cette COP 15, elle se termine sur un accord dit historique, avec pour commencer l'objectif des 30-30. Est-ce que, Annaëlle Durfort, vous pouvez nous détailler un peu ce que c'est que cet engagement?
Donc, effectivement, les 30-30, c'est une des cibles du cadre, donc qui en a 23. Donc, voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur, le cadre ne se résume pas à cette cible des 30-30, mais c'est vrai qu'elle a fait énormément parler d'elle parce que c'était un des points contentieux de ce cadre-là. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est qu'à l'horizon 2030, il va falloir protéger 30% de la Terre et 30% des mers et océans à l'horizon 2030, avec tout un tas de garde-fous sur les droits des peuples autochtones et des communautés locales, parce que en fait, protéger des espaces, on se confronte aussi à plein de problématiques, et typiquement les problèmes des,
par rapport aux subsistances aussi. Ouais.
De subsistance, voilà. Donc tout ça, ça va rentrer en compte. Donc il y a tout un tas de garde-fous aussi dans cette cible. Mais voilà, l'objectif, c'est ça. C'est un objectif qui est chiffré à l'horizon 2030, protéger 30% des mers et océans et des terres.
Et est-ce que les négociations, justement, Marie-Morgane Rouillet, est-ce que les négociations autour de cet accord, vous avez trouvé qu'elles avaient été difficiles ?
Alors, sur la cible des 30%, comme Annaëlle le disait, oui, ça a été difficile. C'est une des cibles qui a mis le plus de temps à se résoudre. Donc, comment ça se passe pendant les négociations ? C'est que, bon, déjà, on a commencé par un groupe de travail qui a essayé d'enlever le plus de crochets possible de ce texte. Après, on a eu la première semaine de la COP, où là, les négociateurs ont essayé vraiment de finaliser un texte qui soit le plus sans crochets possible. Mais en fait, il y a des choses qui sont restées, les points qui étaient vraiment contentieux. Et ça, ça passe dans la deuxième semaine de la COP, quand les ministres de l'Environnement essentiellement arrivent. Et c'est là qu'ils lèvent un peu ces parenthèses. Donc nous, on a subi toutes les négociations. On a vu que c'était très dur, notamment sur est-ce qu'on inclut les territoires des populations locales et des populations indigènes et des communautés locales dans l'objectif des 30% ou non. Et aussi, est-ce qu'on maintient l'objectif de qualité, qui est vraiment l'aspect important de 30%, parce que ça, c'est bien de protéger 30%, mais si on protège 30% et qu'on met aucune gestion derrière et qu'il n'y a pas du tout de qualité, on perd un peu l'objectif de cette cible. Donc c'était vraiment les deux points contentieux. Ça n'a pas été facile et ça s'est résolu au niveau des ministres quand ils sont venus.
Comme ça, peut-être si je peux faire un petit ajout sur ça. En fait, comme Marie-Morgane l'a dit, nous, on a suivi toute une partie des négociations. Et quand les ministres arrivent, c'est ce qu'on appelle la partie du high-level segment, donc le segment de haut niveau. Et là, les négociations sont fermées aux observateurs. Donc nous, les dernières négociations qu'on a vues, les dernières séances qu'il y avait, il y avait encore plein de crochets partout dans ce texte-là. Et après, c'est un peu boîte noire, le high-level segment. C'est voilà, ce texte-là, il entre comme ça et puis il ressort sans crochet une fois que les ministres sont passés dessus. Donc en fait, voilà, c'était un peu juste pour appuyer aussi qu'en tant qu'observateur, on ne voit pas tout. Et typiquement, sur une cible comme ça où c'était très contentieux, en fait, c'est difficile de savoir pour nous comment ça s'est vraiment résolu. Parce qu'en fait, il y a un peu cette boîte noire au milieu où on arrive un peu aux limites de la transparence des COP.
Alors, un deuxième accord financier cette fois-ci, alors j'imagine que ça a dû être compliqué aussi, a été conclu avec la création dès 2023 du FEM, le Fonds mondial pour l'environnement, donc qui sera doté d'une enveloppe de 30 milliards de dollars. Cette somme, elle a été jugée très insuffisante par les pays du Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Déjà, à quoi va servir ce FEM peut-être ? Et puis pourquoi c'est insuffisant, 30 milliards ?
Alors,
Annaëlle Durfort, toujours.
Donc, tout cet argent qui est mis sur la table, il va aller mettre en place l'implémentation du cadre. Donc, mettre en place toutes ces cibles qui ont été décidées. Après, 30 milliards, ça paraît une grosse somme, mais il faut remettre en perspective un peu les ordres de grandeur qu'il a. Donc, il y a une estimation qui a été faite du gap, donc de tout l'argent qu'il faut mettre sur la table entre ce qui est déjà mis à l'heure actuelle et ce qu'il faudrait mettre pour pouvoir implémenter le cadre en 2030. Et ce gap, il s'élève à 700 milliards de dollars. Donc là, on a 30 milliards sur la table par an. Donc en fait, on voit en ordre de grandeur aussi qu'on est loin de ce qu'il faut mettre sur la table. Et du coup, ça va requérir de mettre plus d'argent d'une part. Mais aussi, il y a un deuxième levier d'action qui est super intéressant en termes de financement. C'est de couper les financements qui sont négatifs pour la biodiversité, qui sont dommageables. Donc ça,
On discute.
Oui. Il y a deux types de financement, c'est-à-dire que soit ça va être les États qui vont mettre de l'argent sur la table, soit ça va être le secteur privé. Et tous les deux investissent plus d'argent dans des investissements qui sont des activités dommageables à la biodiversité que pour la protection de la biodiversité. Je vous donne juste un exemple pour le secteur privé, par exemple. Le secteur privé, il investit actuellement environ, à l'échelle mondiale, 10 milliards de dollars par an pour la protection de la biodiversité. Mais il en investit 2,6 trillions par an. Donc, un trillion, c'est 1000 milliards. Donc, on est vraiment sur 1000 fois plus de dollars dans des activités qui sont dommageables pour la biodiversité. Donc, il faut aussi voir ça comme la régulation des entreprises, de comment elles investissent leur argent, où est-ce qu'elles le mettent, comme un vrai levier d'action pour non pas protéger plus, mais enlever des pressions sur la biodiversité qui, en fait, est tout aussi efficace, voire enfin, même la manière d'agir principale.
Marie-Morgane Rouillet.
Oui, je voudrais juste aussi compléter sur l'attente en fait, des pays du Sud, notamment sur ce qu'ils voulaient de cette COP. Donc c'était évidemment de l'argent, mais c'était aussi comment mobiliser cet argent. Parce que Jusqu'à présent, en fait, on a le Global Environmental Facility, qui est en fait un fonds mondial qui sert pour la COP climat et pour la COP biodiversité, en fait, à faire passer l'argent du niveau international pour les projets. Mais il est très difficile à accéder et il y a beaucoup de cet argent qui va pour le climat, il y en a peu qui va pour la biodiversité. Donc en fait, la question, c'était comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'argent pour la biodiversité aussi. Donc c'était la quantité d'argent, mais c'était aussi l'accès à cet argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils sont arrivés à une espèce de compromis où on crée ce fonds sous encore le GEF, ça s'appelle, mais ce sera un fonds spécifique à la biodiversité. Donc là, ce coup-ci, on pourra essayer de mobiliser de l'argent plus directement pour la biodiversité.
Alors, à côté de ces mesures qui sont considérées comme historiques, on trouve plusieurs autres mesures, comme l'arrêt de l'extinction des espèces protégées dues aux activités anthropiques d'ici 2050, la réduction de 50% de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, la préservation des écosystèmes les plus importants sur l'ensemble de la planète, avec la planification spatiale. Est-ce que pour vous, ça semble crédible tout ça, Annelle Durfort ?
Alors, le cadre, en soi, ce qu'il y a dedans en termes d'objectifs, moi, je trouve que... Il y a des endroits où il aurait dû être plus ambitieux, mais il y a plein de choses qui sont très positives dedans. Et si on arrive à le mettre en place, ça sera vraiment une réussite en termes de biodiversité. Par contre, si on remet un peu en perspective historique, on avait déjà, 10 ans auparavant, les accords d'Aichi qui étaient un peu le même principe. C'était les objectifs sur la décennie entre 2010 et 2020. Et puis là, on a l'équivalent donc, pour 2020-2030. Comme vous l'avez dit en introduction, il n'y a aucune des cibles d'Aichi qui a été complètement atteinte. Donc en fait, au-delà du cadre et des cibles qu'il y a dedans, l'objectif maintenant, qui est l'objectif des prochaines COP qui vont arriver aussi pour la biodiversité, c'est l'implémentation. C'est est-ce qu'on va réussir à le mettre en place ? Et donc ça, ça va être des moyens financiers, tout ce qui va être le partage de connaissances et de moyens pour la mise en place, etc. Et puis aussi, être capable de dire est-ce qu'on atteint les cibles ou pas ? Donc être capable d'avoir des indicateurs de réussite de la mise en place du cadre. Et du coup, ça, il y a tout un travail aussi de mise en place d'indicateurs pour savoir est-ce que cette cible-là, on l'atteint ou pas ? Et avoir des indicateurs pertinents, mesurables, quantifiables, etc. Ça, c'est aussi un énorme enjeu en fait, de cette COP-là et puis des COP qui arrivent pour savoir si on va vraiment mettre en place ce cadre.
Alors, le temps, il file à toute vitesse. Il doit nous rester à peu près 1 minute 30. Je vous laisse conclure, Marie-Morgane Rouillet.
D'accord. Alors, très bien. Bah, du coup,
peut-être justement sur vos regrets, s'il y en a eu par rapport à cette COP.
Alors, je pense que déjà, on peut célébrer d'avoir un accord. Ce n'était pas donné. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites, beaucoup de points positifs, l'inclusion des droits humains qui a été respectée, l'inclusion des jeunes. On a quand même une cible juste sur l'inclusion des parties prenantes, dont les jeunes. On a des belles choses qui sont sorties, donc on voudrait quand même les mettre en avant. Après, c'est clair qu'il y a un manque de financement. C'est plus que ce qu'on avait avant pour les objectifs d'Aichi, donc c'est mieux qu'avant, mais pas encore suffisant. Et on a quand même des rendez-vous manqués sur l'inclusion dans le texte de la compensation sur la biodiversité, donc même principe que la compensation carbone, on remplace des... On fait des dommages à un endroit et on reconstruit ailleurs, mais on sait que ça ne marche pas comme ça en pratique. Donc ça, c'était vraiment un point négatif de ce qui est sorti de ce cadre, peut-être.
Un grand merci à toutes les deux. Alors, pour tous ceux qui voudraient aller plus loin, et je pense qu'il y en a beaucoup, vous donnez une conférence donc ce jeudi à 18h30 à Triolet, donc justement pour restituer, on pourra vous poser des questions, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Oui, c'est ça. Ce sera 1h30 de conférence où on va expliquer comment ça marche une COP et puis avec 45 minutes de débat. Donc, il y aura de quoi discuter.
Donc, rendez-vous à Triolet. Et encore, merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et on accueille maintenant notre invitée de dernière minute. Et aujourd'hui, c'est Agnès Pesanti, donc, qui est responsable à la culture scientifique de l'Université de Montpellier. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Vous venez aujourd'hui nous présenter la nouvelle saison du Bar des Sciences. Mais avant, petit rappel de début d'année, le service de la culture scientifique, il fait quoi à l'université ?
Bonne question. Alors, le service de culture scientifique de l'Université de Montpellier, il coordonne en fait le dialogue entre sciences et société au travers de multiples événements sur le réseau des campus, de l'université bien sûr, mais aussi hors les murs, pour un public de citoyens, qu'ils soient étudiants, lycéens et scolaires. Donc, on a une multitude comme ça de publics pour qui on propose différents dispositifs. Alors, les objectifs, vous vous en doutez, c'est quand même de rendre la science accessible à tous les curieux, d'inciter, de provoquer le dialogue entre les scientifiques et le grand public, et puis d'aborder les sciences sous un angle original, innovant, ludique, de donner envie de se pencher sur les sciences.
Et c'est un objectif atteint avec le Bar des Sciences donc, que vous venez nous présenter aujourd'hui. On est reparti pour une nouvelle saison et le prochain, donc, c'est le 26 janvier. prochain au Dôme.
C'est effectivement un objectif atteint, puisque maintenant le Bar des Sciences est devenu l'un des événements phares de culture scientifique à Montpellier, en proposant une fois par mois un débat participatif et citoyen, et on y tient, autour de toutes les sciences.
Alors le prochain, donc je l'ai dit, 26 janvier, est sur un thème que j'ai déjà annoncé en introduction de l'émission, un thème cauchemardesque pour certains.
C'est ça, oui, effectivement, la première soirée porte sur les troubles du sommeil. Alors le sommeil, c'est en effet un déterminant majeur pour notre santé. Ça touche la mémoire, ça touche l'apprentissage, le métabolisme, l'immunité. Et il est vraiment avéré que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques et cognitives. Or, depuis un quart de siècle, la qualité du sommeil des Français se dégrade. Pour diverses raisons que l'on abordera au cours de ce Bar des Sciences. Et alors, il faut savoir aussi que ces troubles sont nombreux. Très nombreux, et qu'ils n'épargnent personne. Femmes, hommes, tout petits, enfants, adolescents, sujets âgés, toutes ces personnes peuvent être atteintes par des troubles du sommeil. Et à terme, ils ont des conséquences très importantes sur la qualité de vie.
Et donc, qui sont vos invités pour discuter autour de ce sujet ?
Alors, on va avoir le plaisir d'accueillir deux expertes pluridisciplinaires qui vont répondre, évidemment, c'est l'ADN du Bar des Sciences, aux questions du public, en présence. On va avoir Valérie Cochène de Coq, qui est neurologue, spécialiste du sommeil et de la vigilance au pôle sommeil et neurologie de la clinique Beausoleil à Montpellier. Et puis Cécile Priou, elle est psychiatre et elle est spécialiste de la prise en charge des troubles du sommeil en clinique et en consultation cabinet privé. Voilà, ces deux personnes vont avoir une approche différente mais tout à fait complémentaire pour parler de ce cauchemar.
Et donc à partir de là, on lance la saison jusqu'au mois de juin et c'est un Bar des Sciences tous les mois. Alors vous pouvez nous donner un petit peu la primeur des thèmes qui seront traités.
Alors le jeudi 16 février, nous traiterons du thème « Où se cache la physique quantique dans notre quotidien ?» On n'imagine même pas, je n'en dirai pas plus, mais la physique quantique, elle est partout. Jeudi 16 mars, le bien-être en éducation, comment et pourquoi? Et ça, c'est la soirée qui s'inclut dans le cadre de la Semaine du cerveau. Comme chaque année, on a une soirée en partenaire. Voilà, exactement. Jeudi 13 avril, les sciences participatives, une autre façon de faire de la recherche. Le 25 mai, vouloir un bébé à tout prix. Ça sous-entend beaucoup de choses. Et le 22 juin, quelle est la place du travail aujourd'hui?
Parfait. Et on retrouve bien sûr toute la programmation donc, sur la page du Bar des Sciences sur le net.
Exactement.
Tout simplement. Et donc, petit rappel, donc le prochain, 26 janvier, 20h30.
26 janvier, 20h30, au Dôme.
Toujours au Dôme.
On accueille avec plaisir le public qui sera ravi peut-être de venir nous voir. Je voulais juste rappeler quand même que cette saison est coproduite, évidemment, par les services culture scientifique de l'Université de Montpellier, mais aussi de ses partenaires fidèles et principaux, que sont l'INRAE, l'INSERM et l'IRD.
Merci beaucoup Agnès.
Merci à vous.
Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.